j'en profite pour vous remercier aussi, toute l'Église, puisque vous contribuez aussi à notre soutien dans le ministère. Et donc merci pour cela, c'est ce qui nous permet de continuer à annoncer l'Évangile, et dans mon cas et celui de Rebecca, de servir au sein de France Évangélisation, et aussi pour ma part, au niveau du réseau FEF et du CNEF. Donc voilà, un grand merci à vous tous pour votre générosité. Ce matin, on a démarré notre culte en nous rappelant du salut, reçu par grâce, par le moyen de la foi, comme nous l'a redit Jean Lionel. Et se pose ensuite la question, pour nous qui sommes chrétiens, bien maintenant que nous sommes sauvés, quelle est la suite ? Quel est le but de notre vie sur cette terre ? Et Jean Lionel, tout à l'heure, citait un catéchisme. Si vous lisez un catéchisme très connu, le petit catéchisme de Westminster, qui a été écrit à l'époque par les puritains, ça commence en disant quel est le but de la vie de l'homme ? Et la réponse que les gens étaient censés à l'époque apprendre par cœur, et c'est comme ça qu'on enseignait la théologie, la réponse était le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son plaisir. Et c'est une bonne réponse, nous sommes là pour glorifier Dieu, une fois que nous sommes sauvés, trouver en lui son plaisir. Mais vient ensuite une seconde question, comment est-ce que nous glorifions Dieu sur cette terre ? Et encore une fois, en lisant la Bible, on pourrait y voir plusieurs réponses. D'abord, on voit qu'on glorifie Dieu par ce que nous sommes, par notre être, par notre caractère, notre vie. Et c'est pour ça que Dieu insiste dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau pour que son peuple soit saint, qu'il soit à son image, qu'il lui ressemble. On voit ensuite qu'on glorifie Dieu par toutes nos activités. Si vous regardez, avant la chute, c'est très clair, lorsque Dieu crée Adam et Ève, il crée l'humanité, eh bien ils sont appelés à glorifier Dieu en travaillant, en fondant une famille, en faisant des enfants, en remplissant la terre, en se promenant dans le monde créé par Dieu, en mangeant, en buvant et simplement en vivant sous le regard de Dieu dans une relation avec lui. Mais ensuite, quand nous continuons l'histoire de la Bible, eh bien nous nous rendons compte que depuis la venue de Jésus, nous sommes invités à le glorifier d'une façon qui est toute particulière et qui concerne seulement l'ère de l'Église. Nous sommes invités à glorifier Dieu en poursuivant la mission de Jésus. Et c'est ce qu'on peut lire dans les évangiles, à travers tous les évangiles, et en particulier à la fin. Et ce matin, on lira un texte dans Matthieu, au chapitre 28, à partir du verset 16, qui nous parle spécifiquement de cette façon de glorifier Dieu en poursuivant la mission de Jésus. En fait, ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que, on l'oublie souvent, mais la mission de l'Église fait partie intégrante de l'Évangile. Dans l'Évangile de Luc, à la fin, le dernier chapitre, lorsque Jésus se révèle à ses disciples comme le ressuscité, il va leur ouvrir les yeux pour qu'ils comprennent les Écritures et il leur rappelle ces vérités. Il leur dit « Il est écrit que le Messie souffrirait, qu'il ressusciterait le troisième jour et que la bonne nouvelle serait prêchée à toutes les nations en vue de la repentance et du pardon des péchés. » Et Jésus va associer sa mort, sa résurrection et l'annonce de cet évangile à toutes les nations. Et c'est comme s'il était en train de dire ce que le plan de Dieu... C'est que Jésus meurt, il l'a fait, qu'il ressuscite, il l'a fait, et que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations, il est encore en train de le faire. Et c'est pour ça que dans le livre des Actes, Luc fera allusion, j'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, sous-entendu, je vais parler maintenant de ce qu'il continue de faire et d'enseigner par le Saint-Esprit au moyen de l'Église. La mission, c'est Jésus qui est en train de continuer son œuvre, et nous sommes invités à nous y associer. C'est notre but dans ce monde de poursuivre cette mission et c'est comme ça que nous glorifions Dieu. Et nous sommes aussi invités à, pas simplement le faire pour glorifier Dieu, mais à trouver notre plaisir dans cette tâche. Si nous avons plaisir en Dieu, nous avons aussi plaisir en ce que Dieu aime. Et à un moment, sa passion, son cœur devient notre cœur. Ses actions, eh bien nous y associons les nôtres. Alors lisons Matthieu au chapitre 28 et on va lire à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous propose encore de prier, et puis on va méditer ce texte ensemble. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce court texte que nous venons de lire, qui a été inspiré par ton esprit, qui a été transmis jusqu'à nous, et nous en sommes reconnaissants. Seigneur, je te prie que ce matin, que tu illumines nos cœurs pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire dans ce texte, que nous puissions le recevoir comme ta parole, ta volonté pour nos vies, et que nous puissions ensuite, dans l'adoration et avec joie, nous y soumettre pour le mettre en pratique chaque jour de notre vie. Amen. Alors, depuis 3 ans, Jésus a cheminé avec ses disciples. Rappelez-vous, ça a commencé en Galilée, au bord du lac, où Jésus venait d'être baptisé dans le Jourdain. Il a une première phase de son ministère en Galilée, où quelques-uns vont commencer à le suivre. Il part en Judée, il revient. Et là, alors que Jean-Baptiste est livré, qu'il arrête son ministère, Jésus va commencer à appeler les disciples à le suivre. Et il est dit dans Matthieu 4, au début de l'évangile, verset 17, que Jésus parcourait la Galilée en disant « Repentez-vous, le royaume de Dieu s'est approché ». Il annonçait l'évangile, qui était une invitation à changer de direction, à se repentir et à recevoir le royaume de Dieu. C'est-à-dire à recevoir Jésus comme le roi. Parce que le problème dans nos vies, c'est qu'à la base, c'est nous qui sommes nos propres rois. C'est comme ça que nous vivons. Et l'évangile, c'est que justement, un jour, par pure grâce, Jésus nous ouvre les yeux et nous nous rendons compte que finalement notre royauté ne vaut rien, qu'il y a un autre roi bien plus grand et nous sommes invités à nous y soumettre. C'est la bonne nouvelle de l'évangile et nous sommes capables de le faire seulement parce qu'il est mort et ressuscité pour nous. Alors les disciples se repentent, ils commencent à suivre ce maître et puis Jésus leur dit ensuite « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'homme. »« Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'homme. » Et donc dès le début de l'évangile, lorsque Jésus invite ses disciples, il y a une double invitation. Il y a une invitation à le suivre, à s'attacher à lui, à être accueilli par le maître. Et il y a une deuxième invitation qui est déjà celle de poursuivre sa mission. Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. À votre tour, vous allez amener des hommes dans le royaume de Dieu. Être disciple, c'est suivre le maître et poursuivre la mission du maître. Souvent, dans l'Église, on va dire qu'un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Ça ne s'arrête pas là. C'est de suivre le maître et de poursuivre la mission du maître. Dans l'Antiquité, si vous étiez élève d'un philosophe, vous étiez enseigné dans une école de philosophie, et puis quand vous sortez, eh bien, vous commencez à répandre la pensée, la doctrine de ce philosophe. Et puis si vous êtes brillant, comme Aristote, vous avez suivi Platon, et puis un jour vous montez votre propre école de philosophie, et à votre tour, vous avez des disciples. C'est la même chose dans les corps professionnels. Vous avez des artisans dans des guildes et puis ils forment des apprentis et l'apprenti n'est pas à l'école toute sa vie. Un jour, il reproduit, il poursuit la mission du maître. Vous apprenez avec un menuisier ou un boulanger, on vous apprend à faire le pain, à faire un meuble et puis un jour, vous savez faire, vous montez votre propre atelier, vous avez à votre tour des apprentis et vous reproduisez. Et Jésus, dès le début, dit à ses disciples que c'est ce qui va se passer. Ils vont suivre le maître, apprendre à côté de ce maître et à leur tour, retransmettre, poursuivre la mission du maître. Et ça dure 3 ans. Pendant ces 3 ans, qu'est-ce que fait Jésus? Il les enseigne, il les équipe, c'est dit que notamment les 12, il les a équipés, leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les maladies, et puis il les envoie, et ils reviennent. Et Jésus recommence avec les 12, avec les 70, il les envoie, et ils reviennent. Et lorsqu'ils reviennent, souvent ils font leur compte-rendu, ils expliquent ce qu'ils ont vécu, et qu'est-ce que fait Jésus? Il rectifie, il corrige et puis il les renvoie à nouveau. Et jusqu'à la fin, dans notre texte, à la fin de l'évangile, où cette fois, il les envoie définitivement avant lui de monter vers son Père. Donc Jésus prend ses disciples à son école et petit à petit, il les évangélise, il les enracine dans la foi, il les équipe et puis à la fin, il les envoie dans la mission. Et alors qu'ils arrivent là, il leur donne cet ordre, eh bien, maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et on va voir dans ce texte les éléments de contexte que Matthieu nous donne au début, l'ordre en lui-même et puis la promesse qui est associée. Alors la première chose qu'on voit, si vous regardez bien, c'est que Matthieu désigne les 11 comme des disciples. Nous savons qu'il s'agit des apôtres, mais c'est comme disciples qu'ils sont désignés. Comme si Matthieu voulait nous dire... Ce que Jésus est en train de dire là, c'est pour les disciples. Pas réservé simplement aux apôtres, c'est pour les disciples. Et ce qui nous montre que c'est d'autant plus le cas, c'est que lorsqu'il leur donne cet ordre de faire des disciples, il leur dit, les disciples, vous allez faire, vous allez leur enseigner à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, si c'est tout ce qu'il a prescrit, eh bien, ça inclut ce qu'il vient juste de prescrire, et donc de faire des disciples. Comprenez ? Allez, faites des disciples, enseignez-leur à obéir à ce que j'ai prescrit, et donc enseignez-leur à obéir à faire des disciples à leur tour. Hein ? Parce que de toute génération, le disciple suit le maître et poursuit la mission du maître. Autrement dit, depuis 2000 ans, les disciples se relaient de génération en génération, faisant des disciples et enseignant aux nouvelles générations de disciples à faire d'autres disciples. Et donc si moi aujourd'hui je suis un disciple de Christ, eh bien ça veut dire qu'à mon tour je suis invité à suivre le maître, mais aussi à poursuivre la mission du maître. On est simplement dans la continuité. Et c'est pour ça que l'Église continue. Parce que si nous arrêtons de faire des disciples, dans une génération il n'y a plus d'Église. Qu'est-ce qui fait qu'il y aura une Église après nous ? C'est parce que comme Jésus, on aura formé des hommes et des femmes fidèles qui vont eux-mêmes suivre Jésus, être des disciples et à leur tour poursuivre la mission du maître, faire d'autres disciples. Donc cette mission, elle s'adresse aux disciples. Le mot disciple, c'est le mot qui est le plus utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner les croyants. Par exemple, le mot chrétien apparaît seulement 3 fois et il est dit notamment que c'est à Antioche dans le livre des Actes que les disciples, pour la première fois, furent appelés chrétiens. En fait, c'était une moquerie. Ils ressemblaient tellement à Jésus, quand on voyait Jésus, et on a commencé à se moquer d'eux en les appelant les petits Jésus, et ce qui a donné le mot chrétien. Le mot disciple lui apparaît près de 300 fois, 296 fois. Un chrétien, c'est un disciple, quelqu'un qui suit le maître, qui a une discipline, qui obéit à son maître. Et Matthieu nous montre que dans cette situation, ils sont 11, et ce chiffre devrait nous alerter. Ils étaient 12 au début. On a lu l'évangile et on sait qu'il y avait Judas et que Judas n'est plus là. Et pourquoi est-ce que Judas n'est plus là ? Parce que bien qu'il ait vécu la vie de disciple pendant un temps, à un moment, il a été confronté entre continuer à suivre le maître, avec toutes les conséquences que ça impliquait, et ce qui pouvait être même d'y laisser sa vie, ou alors suivre son idole, qui était l'amour de l'argent. Et malheureusement, Judas a basculé, et pour de l'argent, il a accepté de trahir Jésus. Ça veut dire que tous ceux qui commencent avec Jésus ne finissent pas forcément avec Jésus. Alors, si tu es vraiment sauvé, nous croyons que Dieu te garde et qu'il te tient dans ta main. Mais la réalité, c'est que dans toutes les églises du monde, nous pouvons avoir des gens qui sont les traits du disciple, qui culturellement ont des comportements de disciples, qui connaissent les choses comme les disciples, mais qui à l'intérieur n'ont pas une véritable allégeance envers le maître. Et à un moment, lorsque les épreuves arrivent, lorsqu'il y a des tentations dans le monde, des idoles qui sont en compétition avec le maître, eh bien le danger est de quitter la foi et de se perdre. Et si ça parle à quelqu'un ici ce matin, la bonne nouvelle, c'est que tant que tu es encore en vie, tant que tu entends la parole de Dieu, tant que le Saint-Esprit te parle et te dit « attention, peut-être que ça te concerne », la bonne nouvelle, c'est que tu peux encore te repentir et de dire « oui Seigneur, c'est vrai, je te demande pardon, je veux arrêter d'être dans la duplicité ». Je veux que tu sois mon roi dans ma vie. Et si c'est le cas, la bonne nouvelle, c'est que la grâce est encore disponible. Comme on l'a dit, Christ est mort, il est ressuscité pour qu'on puisse être transformé. La mission s'adresse aux disciples, ces gens qui suivent le maître et poursuivent sa mission. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons ? Que la mission qu'il leur donne est directement liée à l'identité de Jésus et l'adoration qu'elle suscite. Regardez bien, ils allèrent en Galilée. Et ensuite, qu'est-ce que le texte nous dit? Verset 17, « Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. » Littéralement, ils se prosternèrent, d'autres versions disent « ils l'adorèrent ». C'est le même mot, proskuneo en grec, qui dit « adorer, se soumettre, se prosterner ». C'est essentiel parce que ça nous montre quelle est la vision que les disciples ont de Jésus. On est avec 11 disciples qui sont des juifs. Des gens qui, comme tout bon juif, ont appris la loi de l'enseignement de l'Ancien Testament par cœur depuis leur plus jeune âge. Et qui ont appris notamment le début du décalogue, où il était question que l'Éternel est le seul Seigneur, et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et qu'on ne doit pas adorer un autre que lui. Et pourtant, quand ils voient Jésus, un homme avec qui ils ont cheminé pendant 3 ans, ils se prosternent et ils l'adorent. Ça veut dire qu'en fait, les disciples sont en train de comprendre que cet homme qui est ressuscité, ce n'est pas un simple homme. C'est Dieu lui-même qui se tient en face d'eux. Et c'est ce qu'ils développeront ensuite dans tout le reste du Nouveau Testament, dans les Épîtres. C'est qu'en Christ, il y avait la divinité qui était présente. Et lorsque Christ a été élevé et qu'il reçoit le nom de Seigneur, c'est le mot qui est utilisé pour désigner Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc quand Pierre, le jour de la Pentecôte, dira que Dieu vient de faire Seigneur ce Jésus qui a été crucifié, il est en train de dire, c'est Jésus, homme, il est Dieu, il est pleinement homme, pleinement Dieu. C'était clair, ils n'ont pas attendu le deuxième, le troisième siècle pour comprendre ça. C'était clair dès le début. Et parce qu'il est Dieu, il l'adore. Il est digne de l'adoration, il est digne qu'on soit entièrement soumis à lui. Et en fait, cette adoration dans la vie des disciples va entraîner quelque chose de radical. C'est que si Jésus est Dieu et qu'on n'adore que Dieu seul, alors ça veut dire que l'engagement du disciple, eh bien, il va être un moment exclusif. Il y aura Christ et Christ comme seul maître. Et dans l'Empire romain, eh bien, ça veut dire refuser quiconque autre se présenterait comme Dieu. Et ça veut dire notamment refuser celui qui à l'époque prétend être Dieu, c'est-à-dire l'empereur lui-même. Et c'est tout le défi des premiers chrétiens. Vous faisiez le tour de la Méditerranée, vous aviez des communautés religieuses de partout. Vous pouviez adorer toutes sortes de divinités, à la seule condition que vous ne cessiez pas de faire le sacrifice à l'empereur. Autrement dit, l'empereur n'est pas un dieu très contraignant. Vous pouvez le reconnaître comme dieu et avoir vos petits dieux à côté. Par contre, si vous refusez de dire que l'empereur est Dieu, alors là, vous commencez à vous opposer à la persécution. Et parce que les disciples reconnaissent Jésus comme Dieu et l'adorent, réalisent qu'il est, se soumettent, se prosternent devant lui, eh bien, en fait, ça veut dire que, d'office, ils s'exposent à la persécution dans tout l'Empire romain. Et c'est pour ça que le christianisme sera persécuté pendant des siècles. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est une question qui est clé. Si nous voulons être une église qui est en mission en France, ça commence déjà par la vision que nous avons de la Seigneurie de Jésus. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui comme hier, être en mission, poursuivre la mission de Jésus, ça coûte. Vous l'avez testé. Vous parlez à des gens dans votre famille qui ne sont pas chrétiens, et tout à coup vous subissez des moqueries. Vous montrez un caractère chrétien dans votre travail, et tout à coup vous avez des pressions. Vous annoncez l'évangile, et peut-être qu'on vous explique que votre message est d'un autre temps. Vous pointez du doigt les péchés de notre société, et tout à coup on vous rejette, et parfois même on vous persécute. Et parfois ça peut aller encore au-delà, notamment lorsqu'on quitte une religion et qu'on essaye d'annoncer l'évangile à des gens d'autres religions. Parfois on va avoir de la haine, de l'hostilité, de la violence physique, et parfois même on peut perdre la vie. Qu'est-ce qui fait que les disciples ont continué ? C'est parce qu'ils étaient conscients de qui était Jésus. Et que si Jésus est Dieu et qu'il est le Seigneur et que nous l'adorons, eh bien il n'y a pas d'autre espoir qu'en lui. Et donc il est digne que nous vivions et que nous mourions pour lui. Et lorsque ça s'est acquis, eh bien alors nos cœurs sont transportés pour sa mission. Malgré tout, Matthieu continue et il nous dit que même s'ils l'ont adoré, s'ils se sont prosternés devant lui, quelques-uns avaient des doutes. Et alors, certains commentateurs ont tellement été embarrassés par ce verset 17, mais quelques-uns eurent des doutes, qui se sont dit « c'est pas possible que ça soit les 11 ». Cette rencontre dont Matthieu parle est probablement la même que celle dont Paul parle, où il y avait plus de 500 personnes autour. Et donc, les quelques-uns, c'est les autres, c'est pas les 11. Pourtant, Matthieu nous parle que des 11. Et il n'y a pas de raison de croire que dans sa pensée, il va intégrer autre chose là-dedans. Et je pense qu'en fait, on est mal à l'aise parfois à se rappeler que les 11 disciples étaient en fait des gens très humains, comme nous. Et malgré le fait qu'ils avaient vu Jésus ressuscité, même s'ils étaient convaincus de qui il était, eh bien ça ne les a pas empêchés d'avoir des doutes. Alors on ne sait pas le sujet de ces doutes. Peut-être que ce n'était pas la résurrection dont il s'agissait. Peut-être qu'ils ont pu se dire, mais on sent que Jésus est sur le départ. Il a promis un autre consolateur. Est-ce que l'autre consolateur va venir ? Qu'est-ce qui va nous arriver ? Est-ce que nous, à notre tour, on va venir nous chercher, nous clouer sur une croix ? Est-ce que... On ne sait pas ce que ça concerne. Toujours est-il qu'il y avait des doutes. Et ça nous montre que les doutes dans notre vie, les chutes, les luttes, les combats, ne sont pas disqualifiants pour la mission. La mission de Dieu s'accomplit dans notre vie, malgré notre humanité, et voire même au sein de notre humanité. C'est-à-dire, c'est parce que nous sommes faibles et fragiles que nous allons aussi pouvoir montrer la puissance de l'Évangile qui intervient dans nos vies. Et parce que nous-mêmes, nous vivons face à nos doutes, nos manquements, la grâce de Dieu au quotidien, eh bien nous devenons à notre tour capables de parler de cette grâce. Ils ont des doutes, mais dans quelques jours, Jésus va venir par le Saint-Esprit. Ils vont recevoir la puissance d'en haut. Il sera toujours auprès d'eux et il va continuer à agir au milieu de leurs doutes. Et c'est encore le cas pour nous. Si tu te dis « Ah, moi j'aimerais pouvoir témoigner, j'aimerais faire des disciples, mais je ne suis pas extraverti, je ne suis pas courageux, je ne connais pas bien la théologie, comment ça va se passer ?» La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas disqualifiant. Le Saint-Esprit est là, sa puissance est avec nous pour nous qualifier pour cette tâche. Face aux doutes, qu'est-ce que fait Jésus ? Regardez bien le verset 18. Quelques-uns eurent des doutes, mais Jésus s'approcha. Jésus ne leur a pas dit « Quoi, vous doutez encore ? Race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je » Il aurait pu. Il aurait pu. Et pourtant, Jésus s'approche. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il les rassure. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons continuer la mission malgré nos doutes ? À un moment, c'est notre proximité avec Jésus. Ou plutôt, sa proximité avec nous. Parce que nous, souvent, on s'éloigne. Et lui, il ne s'éloigne pas. Et c'est quelque chose qu'on doit entretenir. Jacques dit dans son épître, si vous vous approchez de Dieu, Dieu s'approchera de vous. Et je crois qu'on a besoin de ça. Moi, je remarque dans ma vie, en tant qu'évangéliste, dans les périodes où je passe moins de temps avec le Seigneur, moins de temps dans la lecture de la Bible, moins de temps dans la prière, petit à petit, mon envie de partager l'évangile, ma capacité à saisir les occasions, va commencer petit à petit à diminuer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les doutes, les difficultés de la vie sont telles que petit à petit, au lieu de laisser la lumière briller, eh bien, on commence à la mettre sous le sceau et puis on cache. Mais si on entretient notre proximité avec Jésus, si notre vie est débordante de la présence du Saint-Esprit, entretenue dans une vie de piété, de foi, de méditation de l'Écriture, eh bien alors tout à coup le zèle revient. Nous réalisons qui nous servons, nous avons envie de l'adorer, nous marchons en disciples et nous sommes prêts à répondre à sa mission. La mission s'adresse à tous les disciples, elle découle de notre adoration, elle s'accomplit dans notre humanité, elle est possible parce que Jésus est proche de nous et parce qu'il nous dit « il a tout pouvoir ». Jésus se présente comme le Seigneur de la nouvelle création. Les cieux et la terre, c'est un écho bien sûr à Genèse chapitre 1. À cette première création que Dieu a faite. Il a créé les cieux et la terre. Il les a créés en Jésus et pour Jésus. Et ce Jésus, maintenant venu en homme, eh bien, il se présente et dit « J'ai tout pouvoir dans l'univers ». Ça veut dire que, malgré nos doutes, malgré nos faiblesses, eh bien, nous savons que ce que le Père a prévu, que le Messie mourrait, qu'il ressusciterait, et que la bonne nouvelle serait prêchée à toutes les nations, eh bien, on sait que c'est acquis, parce qu'il a tout pouvoir. Et donc même si aujourd'hui on bataille et on voit notre pays de France qui a tellement besoin de Jésus et on se dit mais comment est-ce possible ? Eh bien on sait qu'un jour la gloire de Dieu remplira la terre, que la connaissance de la gloire de Dieu remplira la terre et que les visions que nous avons dans l'Apocalypse où nous voyons des hommes et des femmes de toutes nations devant son trône, eh bien c'est déjà acquis. Pas ici dans notre histoire, mais dans la perspective du grand plan de Dieu, c'est acquis. Et donc ça nous donne l'assurance que si nous nous engageons dans cette tâche, parce qu'il est le Seigneur, eh bien malgré nos doutes, notre travail ne sera pas en vain et ça portera du fruit. Alors après que Matthieu nous donne tout ça, il en arrive à ce que Jésus leur dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. C'est le contenu de la mission. Et si vous regardez en français, vous avez quatre verbes à l'impératif. Alors ça peut varier parfois selon les versions, mais la plupart du temps vous en avez quatre. Allez, baptisez, faites des disciples, enseignez. Pardon, j'ai inversé l'ordre. Allez, faites des disciples, baptisez, enseignez. Quatre verbes qui sont à l'impératif en français. Mais en fait, dans le texte grec, vous avez un seul de ces verbes qui est à l'impératif. Souvent je pose la question, est-ce que vous savez lequel c'est ? Et la plupart des gens, alors ma fille elle sait parce qu'elle m'a déjà entendu. La plupart du temps, les gens répondent, allez. C'est le verbe qui a l'impératif, c'est l'ordre. Eh bien non. Le verbe qui est à l'impératif dans l'original, c'est faites des disciples. Et c'est en un seul mot, on pourrait dire, discipuler. Et alors les autres verbes? Eh bien, dans le texte original, ils sont au participe présent. Donc c'est comme si Jésus disait « en allant, faites des disciples, les baptisant et les enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » D'accord? Si vous connaissez un petit peu la grammaire, vous savez que le but d'un participe présent, c'est de préciser les choses, de préciser l'action. Donc en fait, Jésus est en train de nous donner un ordre de mission, faites des disciples, et il précise comment ça doit se faire. Donc en fait, les autres verbes, les autres ordres, sont finalement une sorte de mode d'emploi sur la façon de faire des disciples. D'accord? Faites des disciples, comment est-ce qu'on fait des disciples, Seigneur? Eh bien, c'est simple. En allant, en baptisant, en enseignant à obéir. Vous voyez la logique, l'argumentaire de Jésus? Et donc, ça veut dire aujourd'hui, on se dit, mais comment faire des disciples, nous, maintenant, dans notre contexte? Eh bien, Jésus nous dit, eh bien, si j'ai tout pouvoir, déjà, allez donc dans le monde. C'est comme ça que vous allez commencer à faire des disciples. Puis vous allez les baptiser, et ensuite, vous allez les enseigner à obéir. Alors, d'abord, en allant. En allant dans le monde, c'est le premier mouvement. C'est-à-dire que nous, l'Église, peuple de Dieu, on ne reste pas en dehors, mais on va dans le monde. Et on verra comment on y va. Et un deuxième mouvement, eh bien, c'est les disciples qui rejoignent le peuple de Dieu et qui sont enseignés à obéir. Et donc, en fait, la mission a deux faces. Une première face, l'Église va vers le monde. Et une deuxième face, les disciples vont dans l'Église, apprennent à obéir, avant qu'à leur tour, ils soient renvoyés dans le monde. Parce que vous vous rappelez, le disciple suit le maître et poursuit la mission du maître. Et ces deux faces s'entretiennent. Et c'est pour ça que je suis tellement content quand je vois annoncer, affermir. C'est votre vision, ce que vous étiez en train de dire. On va dans le monde, on annonce l'évangile, on affermit ceux qui viennent, jusqu'où? Jusqu'à leur tour, ils puissent aller dans le monde annoncer. Et au milieu, vous avez l'accueil. Où c'est que se fait l'accueil? Dans le baptistère. Vous voyez? Vous retrouvez ces trois notions-là. C'est bien, vous êtes une église qui a à cœur la mission. Et maintenant, il faut la vivre, peut-être encore, davantage, chacun pour notre part, au jour le jour. Donc nous allons, et les disciples rejoignent l'Église. Comment est-ce qu'on va? Alors si on regarde les textes parallèles de l'envoi en mission, on a quelques précisions. Vous regardez dans l'Évangile de Jean, Jean chapitre 20, verset 21, Jésus dit à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Donc quand il est question d'aller, nous avons un modèle, et ce modèle, c'est celui de Jésus, et celui de l'incarnation. Lorsque Dieu a voulu sauver le monde, il n'a pas envoyé simplement des traités depuis le ciel. Il n'a pas simplement envoyé des humains pécheurs comme prophètes. Il le faisait dans l'Ancien Testament, il aurait pu continuer comme ça s'il avait voulu. À un moment, le modèle qu'on a, c'est l'incarnation, c'est Jésus lui-même, Dieu qui se dépouille, qui vient dans un homme, vivre au milieu des hommes. Et si un jour vous avez la chance d'aller en Israël et que vous allez en Galilée, vous allez à Capernaum, l'endroit où Jésus a vécu. Et vous verrez, là-bas, il y a encore ce qu'on pense qui était la maison de Pierre, l'endroit où, probablement, Jésus a passé une partie de sa vie, de son ministère. Et vous vous rendez compte que c'est entre le lac, qui était le centre de l'activité humaine, l'économie de la pêche, et puis la synagogue, qui était le centre de la vie culturelle et religieuse. Et Jésus était là, à 100 mètres de chaque, au milieu de la vie des humains, après avoir passé 30 ans comme charpentier. Ça veut dire que le modèle de Jésus pour la mission, le véhicule de la mission, c'est des humains pleinement humains. Et même Dieu n'a pas eu peur de rentrer dans cette dimension-là. Ça veut dire que si nous voulons faire des disciples et que nous allons dans le monde, avant de commencer à faire des programmes d'église, avant de commencer à imprimer des traités, à faire des grands médias et ce genre de choses, il n'y a rien de mal à cela. La première chose que la Bible nous demande, c'est déjà nous-mêmes d'être pleinement humains au milieu des humains, là où Dieu nous envoie. Le modèle, c'est Christ, c'est celui de l'incarnation. Ça veut dire que pour chacun d'entre nous, nos vies, ce que nous y faisons, sont précieuses aux yeux de Dieu. L'endroit où tu habites est précieux. L'endroit où tu travailles est précieux. Ce que tu fais dans ton travail, c'est précieux. Parce que c'est les moyens par lesquels tu montres ton humanité au milieu du monde. Et Dieu s'intéresse à tout cela, et il va utiliser cela pour ta mission, si tu le fais bien. On va dans le monde avec le modèle de Jésus. Deuxième chose qu'on voit, si on regarde dans le livre des Actes, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, acte 1, verset 8, et vous serez mes témoins. Donc on va avec Jésus comme modèle, et avec la puissance du Saint-Esprit. Le dimanche, l'Église est rassemblée. C'est génial. On est édifié, exhorté, encouragé pour pouvoir retourner dans le monde. Mais ensuite, du lundi au samedi, eh bien on est dispersé là où Dieu nous place. C'est Jésus, dans la parabole de l'ivraie, qui dit « La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Nous sommes nous-mêmes la semence. Pas simplement ce qu'on dit, mais dans ce qu'on est. » Et là, c'est là où les difficultés commencent. Et Luc nous rappelle au début du livre des Actes, la bonne nouvelle, c'est qu'alors que nous sommes là, dispersés, la puissance du Saint-Esprit est avec nous. On est là le dimanche, on sent la présence de Dieu, on est édifié par sa parole ensemble. Eh bien, le mardi, mercredi, le jeudi, quand c'est dur au travail, la puissance du Saint-Esprit est là et veut encore t'utiliser pour être en mission à cet endroit où tu manifestes l'Évangile de façon incarnée. Et puis, si on regarde Marc et Luc, on voit que si nous allons dans le monde, c'est premièrement pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça veut dire que la mission ne se fait pas sans une annonce verbale de la parole de Dieu. On peut aller faire de belles choses. On peut donner nos vies pour les pauvres. On peut agir dans la société pour le bien commun. Et tout cela glorifie Dieu. Pas de souci avec ça. Mais lorsqu'il s'agit de la mission, ces choses-là ne sont pas la mission. Il y a mission lorsque la bonne nouvelle de Christ est prêchée. Bien sûr, la mission agit avec des supports. Et si on a une action sociale et qu'on a nourri quelqu'un et qu'on lui a donné à manger, qu'on lui a donné à boire, qu'on lui a offert un toit, ça sera bien plus facile de lui annoncer la bonne nouvelle. Ça serait une erreur d'annoncer la bonne nouvelle sans avoir fait tout le reste. Mais il y a annonce de l'Évangile que lorsque l'Évangile est proclamé. Ça veut dire que chacun d'entre nous, là où nous sommes, eh bien à un moment, nous devrions être appelés à dire ce que Jésus a fait pour nous. Alors certains sont particulièrement doués et vont savoir vous expliquer l'Évangile en quatre points, avec beaucoup d'histoires, et trouver des arguments et des manières pour convaincre. Et c'est très bien, on a besoin de ces dons spécifiques. Mais chacun d'entre nous, on devrait au moins pouvoir dire, voilà moi où j'étais, voilà quelle était ma vie, et voilà ce que Jésus a fait. Vous savez, comme la femme samaritaine dans Jean 4, elle venait de rencontrer Jésus, elle n'avait pas tout compris. Et puis elle rentre dans son village, elle dit, j'ai trouvé un homme là, il vient de me raconter tout ce que j'ai fait. Je n'avais rien dit, il connaît toute ma vie. Est-ce que ça ne serait pas le Messie? Et elle a amené tout un village à Jésus. Ou alors pensez à l'aveugle-né dans Jean 9. Il ne sait même pas qui est celui qui lui a ouvert les yeux. Quand les Juifs lui demandent, peut-être un prophète? Il ne sait pas. Par contre, il sait une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et Jésus attend simplement ça de nous, qu'on puisse dire là où nous passons, voilà ce que Jésus a fait pour moi. Et on annonce l'Évangile là où nous sommes, dans notre quartier, dans nos familles, auprès de nos enfants, ce sont les premiers dont on espère qu'ils deviendront des disciples, dans notre travail. Et puis on le fait avec un geste de compassion comme Jésus. Et c'est pour ça que nous avons besoin de réfléchir aussi à comment est-ce qu'en tant qu'Église, nous pouvons montrer de l'amour, répondre aux besoins de la société autour de nous. Et puis après, nous essayons de le faire en communauté, parce que l'ordre n'est pas individuel, il est pluriel. Comment est-ce que la communauté de l'Église se connecte avec ceux du monde? Mais lorsque nous cherchons à ressembler à Jésus, que nous prions, en fait, si nous avons l'envie, les occasions viennent et nous pouvons les servir. Et puis, petit à petit, eh bien, lorsque nous saisissons les occasions, eh bien, nous avons les gens, ils posent des questions, ils se tournent vers Jésus. On peut les inviter à découvrir la Bible, à grandir, et un jour, on l'espère, ils se tournent vers Jésus, et à ce moment-là, on les baptise. L'accueil dans l'Église. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus, simplement dire que le baptême n'est pas une option. On a besoin d'être baptisé. Parfois, on a eu tendance à remplacer le baptême par des cartes de décision, par ce genre de choses. Et là encore, il n'y a rien de mal si ça permet à la personne de marquer une décision dans sa vie. Et dans la Bible, ce qui manifeste la conversion, l'appartenance au Christ, c'est l'engagement par les eaux du baptême. Et puis une fois qu'ils sont baptisés, eh bien Jésus nous invite à les enseigner à obéir. Non pas les enseigner seulement, les enseigner à obéir. Un des problèmes, notamment dans notre culture occidentale, marquée par la pensée grecque, c'est qu'on aime la connaissance. Vous allez à l'université, et puis on vous apprend beaucoup, beaucoup de choses. Pas forcément à mettre en pratique et à obéir. Jésus nous demande, enseignez-leur à obéir. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre idée souvent, il y a cette idée que parce que je connais quelque chose, je vais grandir. et lorsque j'aurai assez grandi, je me mettrai au boulot. Et ça donne des discours que vous avez peut-être déjà entendus dans les églises. Vous allez voir un jeune converti, vous lui dites, tiens, est-ce que tu voudrais te faire baptiser? Et puis la personne vous regarde, elle dit, ah non, j'en connais pas encore assez. Il n'est pas question de connaissance. La question c'est, est-ce que tu appartiens à Jésus? Ou alors, est-ce que tu témoignes à ton entourage? Ah non, moi, je connais tellement peu de la Bible. Et encore, ce n'était pas une question de connaissance. C'est une question d'obéissance. L'idée de Jésus, c'est que lorsque je connais, si je mets en pratique ce que je viens de découvrir, c'est là où je grandis. Et je deviens capable ensuite qu'on m'enseigne plus de choses. D'accord? Donc nous pensons connaissance, croissance, et puis peut-être un jour obéissance. Et j'ai dit non, connaissance, mise en pratique, croissance. Vous voyez la différence? Et c'est pour ça que quand vous regardez les évangiles, quelle est la première chose que Jésus enseigne à ses disciples? Regardez les grands discours, sermon sur la montagne. Vous donnez le sermon sur la montagne à lire à un enfant de primaire, il comprendra 90%. Il va aussi comprendre que c'est très dur à mettre en pratique. Ça te demande une obéissance extrêmement difficile. Ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Dur, hein? Aimez vos ennemis. Si vous saluez seulement ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Et puis on pourrait continuer. Et à la fin des évangiles, eh bien Jésus enseigne plus de choses. Et vous regardez l'évangile de Jean, le dernier soir, vous avez les discours sur la Trinité, sur le Saint-Esprit, où Jésus se dévoile davantage à des gens qui ont déjà appris à obéir. Et donc ça veut dire que dans l'Église, eh bien nous sommes tous invités à obéir, on suit le Maître, et à enseigner aux autres à obéir. Et là encore, ce n'est pas réservé simplement aux prédicateurs, aux enseignants. Chaque chrétien a quelque chose à retransmettre. Peut-être que ça fait des années que tu marches avec Jésus, et pendant 30 ans, tu as vécu tes épreuves dans la difficulté, mais dans la joie du Seigneur, avec confiance en lui. Tu as appris à prier, tu as appris à tenir ferme, même quand c'était difficile, tu as appris peut-être à gérer tes finances d'une façon que Dieu honore, tu as appris à aimer dans ta famille ceux qui ne sont pas aimables. Eh bien tout cela, c'est des choses que tu peux transmettre à d'autres. Alors pas forcément en faisant des grands discours, mais le plus souvent, simplement comme Jésus le faisait, en passant du temps avec les autres. Et la première chose que peut-être nous pouvons faire pour apprendre aux autres à obéir, c'est déjà d'ouvrir nos maisons, d'ouvrir nos vies, et de laisser des plus jeunes dans la foi voir l'arrière-boutique de nos vies. Quels sont nos combats? Quelles sont nos luttes? Comment est-ce que lui vit son culte personnel? Comment est-ce qu'il fait le matin quand il est seul avec le Seigneur et il n'y a que sa Bible dans la prière? Eh bien, ces choses-là, nous pouvons les montrer. Et bien sûr, après, certains vont avoir les capacités et le don de transmettre plus, d'enseigner, de faire une étude biblique systématique, de prêcher et de former les disciples ainsi. Mais chacun d'entre nous, nous pouvons y prendre notre part. Alors je crois que dans quelques mois, Jean-Lionel me disait que vous aurez un week-end d'église où il me semble on va vous reparler du discipulat. Et j'imagine qu'on vous donnera plein d'outils et de méthodes pour faire cela. Et ce que je remarque dans toutes les églises où je passe, c'est que vous pouvez donner énormément d'outils à une église et ne rien voir changer. Par contre, lorsque des gens ont la conviction qu'ils doivent être en mission, même s'ils n'ont pas les meilleurs outils, tout à coup on remarque que ça porte du fruit. Parce qu'en fait, la conviction qui est à l'intérieur va les mettre en mouvement et les outils vont venir en plus. Et ce que j'espère aujourd'hui, c'est que vous allez au moins avoir la conviction qu'en tant que chrétien, vous êtes appelé à retransmettre ce que Jésus vous a donné et que ça fait partie du but de l'Église ici-bas. Alors peut-être que vous vous dites, oui, mais la tâche, elle est dure. Hein? Elle est dure. Mais Jésus termine en leur laissant cette promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a vu déjà au début, vous vous rappelez, la mission, elle est pour les disciples, elle découle de notre adoration, de qui est Jésus, celui qui a toute autorité. Elle s'accomplit dans notre humanité, malgré nos doutes, malgré le fait que c'est difficile et qu'on se demande quand c'est qu'on aura le temps de faire tout ça et comment est-ce qu'on va le faire. Elle est possible parce qu'il a toute autorité. Et Jésus rassure encore ses disciples. Je suis avec vous tous les jours. Il leur rappelle aussi à quel point c'est important. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus veut éveiller en eux le sens de l'urgence. La fin du monde arrive. Il a déjà dit plusieurs fois, la nuit vient où personne ne peut plus travailler. Travailler pendant qu'il fait jour. Alors la fin du monde arrivera un jour, mais pour certains, la fin du monde c'est déjà aujourd'hui. Chaque jour, nous avons des hommes, des femmes qui meurent et qui ont rendez-vous avec leur Créateur. Jésus est en train de nous dire que la mission n'est pas simplement importante, elle est extrêmement urgente. Parce que des gens de toute ethnie sont en train de mourir sans connaître Jésus-Christ. Et ça devrait nous éveiller et se dire, nous qui sommes disciples, nous qui avons reçu tout par grâce, pour qui Jésus est mort, qu'est-ce que nous faisons face à sa mission? De temps en temps, j'aime aller visiter les cimetières quand on se promène, je regarde et je marche dedans et souvent c'est l'occasion de réfléchir au sens de la vie, de dire un jour, moi aussi je vais être là. Et si vous regardez dans un cimetière, vous vous rendez compte que sur chaque tombe, vous avez un point commun. Vous avez deux dates et un trait d'union sur toutes les tombes. Et c'est la réalité de notre vie ici-bas. Cette vie ici est seulement un petit trait d'union entre deux dates. Et la grande question pour chaque être humain, et en particulier pour nous chrétiens, c'est cette petite vie que Dieu nous donne, qui peut être tellement courte. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous nous mettons au centre et nous vivons comme si nous étions notre propre Dieu, avec peut-être Jésus quelque part dans notre vie? Ou alors est-ce que nous le mettons, lui, au centre, et nous disons, cette petite vie, je veux la vivre pour lui, et je veux l'investir dans la perspective de l'éternité? L'apôtre Paul disait que Christ est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et c'est de cela dont il est question quand il dit, la fin du monde, elle arrive. Elle sera là plus vite que nous ne pouvons l'imaginer. Et dans ce temps, il nous invite à poursuivre sa mission, à être des disciples attachés à lui et à faire des disciples. Alors que Dieu nous donne, dans nos vies, de libérer du temps et de dire « Oui Seigneur, j'ai envie que ma vie serve à ce que d'autres te connaissent. J'ai envie que d'autres qui sont plus jeunes dans la foi puissent recevoir ce que j'ai reçu de toi. » Ça commence par notre vie de prière, par notre caractère, par notre exemple. Ça se poursuit dans nos actions, dans notre parole, et parce que Jésus est fidèle, nous savons qu'il va multiplier le peu que nous pouvons faire au-delà de toute mesure pour sa gloire. Prions. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu es un bon maître et que ton fardeau n'est pas dur et pesant, mais il est doux et léger. Merci parce que lorsque tu demandes quelque chose, tu nous qualifies et tu nous promets que ces choses-là s'accompliront. Tu as toute autorité. Un jour, la mission sera achevée. Tu nous as donné ton esprit. Nous sommes qualifiés pour rentrer dans ton œuvre. Seigneur, je te prie que tu trouves simplement en nous des cœurs disponibles, pleins de bonne volonté, étant prêts à dire « Oui, Seigneur, je suis là. J'ai reçu ta grâce. Je veux vivre pour toi. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que de te donner ma vie. » Seigneur, je te prie que notre temps, notre argent, nos actions, nos pensées puissent être entièrement consacrées à toi. Nous puissions être disponibles, les instruments entre tes mains. Et Seigneur, que toi-même tu nous surprennes, qu'alors que simplement dans nos vies nous essayons de te ressembler, d'appliquer simplement ta parole, eh bien que tu nous donnes des occasions de partager notre foi, des occasions de transmettre à d'autres. Et Seigneur, que tu nous donnes de saisir ces occasions et de savoir comment répondre par nos paroles et par nos axes. Seigneur, je te prie pour cette église, le Lyon-Sonnera. Merci parce que tu la connais, tu veilles sur elle, c'est toi qui es le grand berger des brebis. Et Seigneur, je te prie que tu continues à la remplir de ton esprit, à lui donner une plus grande vision de toi, une plus grande passion pour toi, et qu'elle ait la joie de te servir dans ce monde pour annoncer l'évangile, pour accueillir dans cette communauté tous ceux que tu appelleras par ta grâce, et pour les affermir, pour qu'à leur tour ils poursuivent ta mission. Merci parce que tu es avec nous, tu es fidèle, c'est toi qui le feras. Amen.
Je vous propose de rester encore quelques instants.